Ce soir donc, nous recevons Madame Catherine Mehring. Madame Catherine Mehring est née le 5 septembre 1951 à Paris. Elle est professeure à l'Université Paris 7 Denis Diderot depuis 1999. Elle est responsable du laboratoire Pôle Images à l'Université de Paris Sainte, qui est chargée de faire des cartographies et de l'analyse d'images. Elle est également membre de l'équipe CNRS de géographie qui s'intitule PRODIG, qui est chargée de la création et de diffusion des informations géographiques. Elle est docteur d'État en géographie. Parmi son parcours, elle a été enseignante en mathématiques dans le second degré à partir de 1975, puis chargée de mission à la centrale des bilans de la Banque de France entre 1977 et 1979, ingénieure au Centre interrégional de calcul électronique et au Centre de ressources informatiques du CNRS entre 1979 et 1981, ingénieure de recherche au laboratoire des télédétections des services scientifiques centraux de l'Orstom, qui est devenu l'Institut de recherche et de développement, l'IRD, entre 1981 et 1992, puis chargée de recherche à l'Orstom et membre de l'équipe géotechnonique du CNRS entre 1992 et 1995. Et entre 1995 et 1998, elle est devenue maître de conférence à l'Université Denis Diderot Paris 7. Elle est spécialiste de télédétection des systèmes d'information géographique. Elle a travaillé sur les paysages des déserts intertropicales et des pays en voie de développement. Catherine Mehring a également publié de nombreux articles dans des revues et ouvrages spécialisés, nationaux et internationaux, et participé à de nombreux colloques.
Merci. Donc, nous allons tout de suite passer à ce qui fait le thème de cette conférence, qui est l'observation de la Terre par satellite et son utilisation par les géographes. Pour ce qui est des géographes, il s'agit bien sûr de connaître les structures spatiales et les voir évoluer, structures spatiales à la surface de la Terre, essentiellement. Depuis longtemps déjà, ils ont des outils qui sont des cartes et qui sont les photographies aériennes. Donc bien avant la mise en orbite de satellites d'observation de la Terre, ils utilisaient ces outils d'observation que sont les photographies aériennes. En France, qui a commencé et continué à pratiquer les photographies aériennes, à produire les photographies aériennes, eh bien, c'est notre Institut Géographique National, l'IGN. Pourquoi est-il chargé de faire ses missions de photographie aérienne? Eh bien, pour mettre à jour les cartes topographiques. Les cartes topographiques, ce sont des cartes à différentes échelles que vous pouvez consulter pour vous repérer, pour circuler en France et dans le monde. Donc les cartes topographiques, c'est un outil de base que tout le monde utilise. Et bien entendu, il faut les remettre à jour régulièrement, puisque aussi bien les villes que les paysages naturels se modifient au cours du temps. Alors, la photographie aérienne est déjà un document intéressant pour le géographe, Et pour l'ingénieur topographe également, puisqu'il arrive à l'aide d'une photographie aérienne à produire une carte topographique qui, bien sûr, comporte peu de détails, mais des détails tout de même intéressants, que sont les réseaux hydrographiques en bleu, toujours sur les cartes topographiques de l'IGN, la végétation en vert et les routes et tout ce qui est voie de communication artificielle en rouge. On voit également, et tout le monde sait les reconnaître, les agglomérations qui sont indiquées par des toponymes en noir sur les cartes topographiques. Bien entendu, les géographes utilisent à la fois les photographies aériennes et les cartes topographiques, pas pour refaire et mettre à jour des cartes topographiques, mais pour cartographier les éléments du paysage. Et ça, ils le font depuis longtemps, depuis que la diffusion des photographies aériennes s'est systématisée, c'est-à-dire depuis les années 50. Donc, les géographes disposent d'archives sur, en tout cas, le territoire français depuis les années 50. Ils peuvent ainsi suivre l'histoire d'un paysage et ensuite voir comment ce paysage évolue, eux-mêmes se chargeant de faire les cartes. Alors j'ai pris ici l'exemple d'une photographie aérienne sur la Champagne, d'un parcellaire agricole. Pardon. Et on voit ici, on devine le parcellaire, on devine la forêt, et on voit très indistinctement, je vous l'accorde, les rebords d'un plateau. Comment les géographes ont-ils traditionnellement exploité ces photographies aériennes ? Eh bien, en faisant des croquis par calque, en faisant donc du dessin par transparence à partir des photographies aériennes. Donc, ils faisaient une interprétation puis un dessin à partir de photographies aériennes qu'ils ont appris au cours du temps à interpréter. Alors dans ce cas-là, par exemple, sur ce croquis, on a mis en violet les cultures maraîchères et les vignes, en jaune les cultures de céréales et en vert les forêts. Donc, depuis longtemps, les géographes utilisent les documents tels que les photographies aériennes pour localiser les ressources forestières, les espaces habités, les réseaux hydrographiques. Alors, maintenant, qu'y a-t-il de nouveau ? Et pourquoi se sont-ils mis à utiliser aussi les satellites d'observation de la Terre ? Alors, d'une part, ces satellites vont aussi prendre des images qui ne sont pas des photographies, mais des images numériques de la Terre. Quelle est la différence fondamentale avec les photographies aériennes ? Eh bien, ce sont des satellites sur lesquels on met des appareils de prise de vue, des capteurs, on les appelle capteurs, et ces satellites sont mis en orbite et prennent régulièrement des images, c'est-à-dire, en moyenne, pour prendre l'exemple du satellite SPOT, par exemple, une fois par mois, on va dire une fois par mois, sur la même zone, sur la même région, eh bien, une photographie, ou plus exactement, une image, une scène numérique est enregistrée. Alors, vous voyez bien que par rapport à la photographie aérienne, le progrès est grand, puisque la photographie aérienne demandait d'organiser une mission, de prendre un avion, et pas n'importe lequel, un avion équipé, et mobiliser du personnel et du matériel pour enregistrer des images, donc dans ce cas-là, prendre des photos. Alors que pour ce qui est des missions satellites, une fois que les satellites sont mis en orbite, je prends l'exemple de SPOT, eh bien, ils prennent ces images de façon répétée jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus rendre ce service et qu'ils soient remplacés par un autre satellite qui fera à peu près la même chose et en général de façon de plus en plus perfectionnée au cours du temps. Autre avantage, c'est que vous avez vu cette photographie aérienne, elle couvre un espace qui fait à peu près 20 km de côté, et alors que les satellites, compte tenu de leur altitude de vol, qui pour SPOT est de 800 km, pour d'autres satellites un petit peu moins, mais à peu près cette altitude-là, ces capteurs vont produire des images qui couvrent des scènes beaucoup plus, de taille beaucoup plus importante, donc, et de façon répétée. On aura une vision synoptique de la région. Donc, en résumé, les satellites produisent des images avec une précision qui est à peu près comparable à la précision des photographies aériennes, mais on y reviendra, mais de façon répétée, continue, une fois par mois, et sur des scènes d'environ 100 km. De plus, la prise de vue est faite toujours à la même heure locale. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que, quelle que soit la région, eh bien, l'image est prise en général un peu avant midi. Et donc, les conditions de prise de vue sont équivalentes pour toutes les régions et quelle que soit la saison. Alors, outre ces avantages, à quoi vont servir ces images qui, donc, vont tomber du ciel régulièrement, si j'ose dire, en tout cas environ une fois par mois pour une région donnée. Eh bien, elles vont servir, bien sûr, toujours aux ingénieurs topographes à mettre au point leur carte topographique, à les mettre à jour, mais également, et ça surtout pour les géographes, à faire l'inventaire des ressources, ressources forestières, ressources agricoles, étudier les villes, ces villes qui changent, qui en général augmentent de surface. Et elles servent également à étudier les structures géologiques, les volcans, à étudier bien sûr les changements climatiques, ou plus exactement, pour ce qui est des géographes, de voir les effets de ces changements climatiques sur la végétation en particulier, et par exemple d'étudier l'avancée du désert, d'étudier, et ça je pense que maintenant nous y sommes particulièrement sensibles, les effets des catastrophes naturelles ou technologiques sur les paysages, et d'étudier en général les transformations des paysages qui sont dues aussi à l'activité humaine, par exemple la croissance urbaine, la déprise agricole, la déforestation. Alors, les missions satellites ont commencé dans les années 1972, donc on peut dire 20 ans après la diffusion systématique des photographies aériennes, mais c'est depuis les années 80 que l'on dispose d'instruments à haute résolution. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la haute résolution ? La résolution, c'est le rapport entre la taille du point sur l'image et la taille de la tache au sol qui est enregistrée. La plus petite tache au sol qu'enregistre, qui est capable d'enregistrer ou de décrire Spot, par exemple, fait 20 mètres de côté, en mode multispectral. Pour un autre satellite dont on verra les images également, la plus petite tache au sol fait 30 mètres de côté. Donc, les objets qui font à peu près ces tailles, c'est-à-dire 20 mètres de côté, pourront être détectés par Spot et par Landsat Thematic Mapper. Alors, ces satellites ont-ils des appareils photographiques ou des caméras à bord ? Non, je pense que d'autres conférenciers ont déjà dit. Il ne s'agit pas d'appareils photographiques, il s'agit de capteurs, c'est-à-dire d'instruments qui mesurent l'énergie renvoyée par la surface terrestre. Cette énergie est mesurée, transformée, codée en chiffres, et bien sûr enregistrée sur un support quelconque et envoyée à Terre via les satellites de télécommunication. Alors, cette énergie est une énergie renvoyée, c'est bien sûr la source de cette énergie, c'est le soleil, c'est l'énergie lumineuse, et ces capteurs mesurent la part que la Terre renvoie de l'énergie reçue durant la journée. Alors, nous, on est capable de voir l'énergie renvoyée, puisqu'on a des capteurs, ce sont nos yeux, mais on ne peut voir que dans un domaine du spectre électromagnétique qu'on appelle d'ailleurs spectre visible, parce que nous, on le voit. Et la grande nouveauté avec les satellites actuels et futurs, c'est qu'ils n'enregistrent pas seulement l'information dans le spectre visible, mais également dans d'autres domaines du spectre électromagnétique, par exemple le domaine infrarouge, qui correspond à un domaine où les longueurs d'onde les ondes qui transportent l'énergie, bien entendu, sont plus longues que les ondes du spectre visible. Donc, on peut dire que maintenant, on a de façon régulière des images de la Terre, pas seulement dans le domaine visible, mais dans le domaine infrarouge. Et vous allez voir que, de plus en plus, on va avoir également des images dans le domaine radar, qui est un domaine où les longueurs d'onde sont encore plus importantes que le domaine visible et infrarouge. Donc on voit des paysages que l'on ne pouvait pas voir en quelque sorte avec nos yeux. Donc ça, c'est une nouveauté. Bien sûr, il n'y a pas de limite autre que des limites matérielles, mais il n'y a pas de limite technologique vraiment au choix du nombre de fenêtres de longueur d'onde. Bientôt, un satellite va être lancé qui pourra enregistrer ce qu'on voit à la surface de la Terre dans un domaine visible infrarouge dans 20 bandes c'est-à-dire 20 domaines du spectre du visible à l'infrarouge. Donc, les informations ont tendance à augmenter, elles sont répétitives, et c'est ça la grande avancée de l'utilisation des images satellites pour les géographes. Alors, un capteur sur une région donnée, on va prendre l'exemple de Paris, puisqu'on se trouve dans cette ville, un capteur tel que le capteur multispectraux de SPOT va prendre non pas une image, comme c'est le cas par exemple pour l'appareil photographique panchromatique noir et blanc qu'on met sur un avion pour prendre une photographie aérienne, il va prendre autant d'images qu'il a de capteurs capables de mesurer dans les domaines du spectre électromagnétique. Pour ce qui est de SPOT, il en a trois. Il a trois bandes spectrales où il est capable d'enregistrer l'énergie réfléchie. Il s'agit de deux bandes dans le visible, il découpe le visible en deux, et une bande proche infrarouge, pas encore dans l'infrarouge. Alors, on a plusieurs images, pour SPOT, on en a trois. On a trois images d'une scène quelconque à chaque prise de vue. Alors, l'image est une image numérique. À quoi correspondent les teintes? Elles correspondent à la quantité d'énergie réfléchie dans la fenêtre de longueur d'onde dont il est question. Ici, il s'agit de la première fenêtre de longueur d'onde visible. On voit Paris uniquement dans cette fenêtre qui se situe au début du visible, ce qui correspond à peu près à ce qu'on appelle le vert, enfin la couleur verte que nous, on est capable de voir. Hein. C'est à peu près, pas exactement. Alors, c'est Paris vu sous cet angle-là. Vous allez me dire, oui, je reconnais bien la scène, mais sinon, pour le reste, ça m'a l'air moins intéressant qu'une photographie aérienne. Alors, effectivement, les objets sont a priori plus petits sur une scène spot. Ici, c'est un petit bout de scène spot. Vous connaissez la taille de la dimension de Paris. Paris ne couvre pas 100 km une scène de 100 km de côté. La scène ne m'apparaît pas clairement en bleu. Les parcs ne me paraissent pas clairement non plus. Il y a plusieurs teintes. Et si j'arrive à peu près à me repérer par rapport à la scène et aux grandes voies de communication telles que le périphérique, je suis assez déçue. Alors, effectivement, quand on voit une seule image spot, on peut être assez déçu. Voilà la deuxième image spot dans la deuxième bande de spot qui correspond à peu près à ce que nous on appelle le rouge. On va un petit peu augmenter le contraste. Et là aussi, vous allez me dire, rien de neuf. Alors maintenant, le proche infrarouge, qui est la troisième bande de mesure de SPOT, elle est un petit peu différente des autres, on le voit tout de suite, parce qu'il y a des taches claires, des taches sombres. D'abord, la scène est sombre, et puis il y a des taches claires qui correspondent à la végétation. Alors ça, c'est-à-dire au parc public, on reconnaît. Alors ici, pour se repérer, on est dans le parc du Luxembourg. Ici, les Tuileries. Et ici, le jardin des plantes. Donc, nous, actuellement, on se trouve à peu près ici. Donc, on se repère un petit peu mieux sur une image proche infrarouge, bizarrement, alors que c'est une longueur d'onde qu'on ne perçoit pas avec nos capteurs à nous, les yeux. Eh bien, tout simplement parce que, justement, cette bande est capable de faire bien la différence entre la végétation et l'eau et le minéral. Bien sûr, le plus agréable serait d'avoir en une seule image ces trois informations. Alors, comment fait-on, et ça on va le faire pour toutes les images des capteurs, qu'il s'agisse de SPOT ou d'autres capteurs, on va utiliser la synthèse des couleurs, des trois couleurs fondamentales, le rouge, le vert et le bleu, pour faire une seule image qui apporte toutes les informations. On est limité à trois couleurs parce qu'il y a trois couleurs fondamentales. Dans le cas de SPOT, c'est idéal. Il n'y a que trois images, enfin pour jusqu'à l'année dernière, il n'y avait que 3 images. Donc, on fait une seule synthèse. On va attribuer à chaque image une couleur fondamentale dans l'ordre des longueurs d'onde croissantes, donc le bleu pour la première, le vert pour la deuxième et le rouge pour l'image proche infrarouge. Alors, voilà le type d'image qu'on peut obtenir en faisant cette synthèse. Alors, je vais agrandir un petit peu, j'espère que vous voyez un peu les couleurs. Pas trop, peut-être. Je le pourrais mettre peut-être un peu moins bien que vous. Alors, la scène est en bleu. La ville, le bâti, est dans des couleurs claires, bleuâtres. Et ce qui est rouge, eh bien, correspond à la végétation. Donc là, on voit bien sur une seule image à la fois le minéral, la végétation ici le bois de Boulogne, ici le cimetière du Père-Lachaise, ici les buttes de Chaumont, le Luxembourg, le parc Montsouris. Donc là, cette fois-ci, on a toutes les informations en une image, et bien sûr, c'est sur ces images qu'on appelle des compositions colorées qu'on va utiliser pour étudier les paysages. Alors, est-ce que tous les satellites apportent la même information? Eh bien, on va dire que a priori, ils apportent des informations qui sont parfois plus riches. Je prends l'exemple de Landsat Thematic Mapper, qui est un satellite, cette fois-ci, non pas lancé par la France ou l'Agence spatiale européenne, mais par les États-Unis. Eh bien, Landsat Thematic Mapper voit bien sûr, enregistre les données suivant les mêmes longueurs d'onde, et si on fait une composition colorée comme avec SPOT, on voit a priori les mêmes détails. Alors vous voyez, ici c'est le sud-est de Paris, le Luxembourg, Parc Montsouris, le périphérique, la Seine, la Marne. Alors, ce qu'on peut voir et ce qu'on peut ensuite mesurer avec Landsat Thematic Mapper correspond à la fois à ce qu'on peut voir avec SPOT, mais également on peut voir d'autres phénomènes. Pourquoi ? Parce que Landsat Thematic Mapper a des capteurs dans l'infrarouge, il en a 4, depuis l'infrarouge proche jusqu'à l'infrarouge thermique. Et donc, Paris et sa banlieue peut également avoir un autre aspect qui, je dirais, peut-être nous parle plus, même si ce sont, pour le coup, des couleurs qu'on ne verra jamais, nous, avec nos yeux. On a, dans cette composition colorée, mis l'image du proche infrarouge en bleu, donc la végétation apparaît bleue dans les couleurs froides, et on a mis l'infrarouge thermique en rouge. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit apparaître des taches rouges qui correspondent aux agglomérations. Alors, bien sûr, c'est un détail très intéressant, puisque cet infrarouge thermique, c'est donc l'énergie émise par la surface de jour, eh bien, elle est particulièrement importante autour des villes. Ces villes et ces agglomérations qui sont directement perçues sur les compositions colorées infrarouges. Ici, par exemple, on est dans le cas d'une région agricole autour de Melun, donc Melun qui est une ville au bord de la Seine, qu'on voit bien comme tache rouge, et ici le parcellaire agricole. Alors, tache jaune, tache bleue, de quoi s'agit-il ? En bleu, on l'a dit, ce sont les parcelles qui sont cultivées et dont la végétation a déjà poussé, culture d'hiver. C'est une image qui a été prise au printemps. Et en jaune, de quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit des sols nus, bien puisque vous savez qu'on pratique l'assolement, les cultures, on ne les sème pas en même temps, elles ne poussent pas en même temps. Donc, on voit clairement un paysage agricole avec ses champs couverts de végétation et d'autres qui sont encore nus. Et on le voit très bien grâce, cette fois-ci, non pas aux canaux visibles, mais aux canaux de l'infrarouge. Alors, est-ce que, indépendamment de l'observation ponctuelle, Les géographes utilisent ces images pour faire des cartes. Ils utilisent ces images pour faire des cartes, mais pas des cartes topographiques. Alors, mon voisin a parlé tout à l'heure des zones désertiques. Il se trouve qu'effectivement, on peut aussi cartographier des zones où l'activité humaine est faible. À quelle fin ? Bien justement, de voir et de mesurer, eh bien, par exemple, la dynamique de ces zones désertiques et en particulier des zones dunaires. Alors, j'ai pris un exemple ici, toute petite partie d'une scène qui se situe sur le Grand Erg occidental au nord du Sahara. C'est une image qui, cette fois-ci, une image spot, qui a été prise dans le domaine panchromatique, c'est-à-dire un domaine sur lequel je n'ai pas insisté, qui a à voir avec la prise de vue des photographies aériennes, c'est-à-dire qu'on a tout le domaine visible dans une seule mesure. Mais cette fois-ci, le point est beaucoup plus petit, il fait 10 mètres au lieu de 20 mètres. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ces images ? On voit des dunes et on voit des chaudrons interdunaires. Et on aimerait savoir où se situent ces chaudrons et ces zones de déflation, ces creux. Et on aimerait les cartographier. Eh bien, on les cartographie. Alors, cette fois-ci, pas à la main. Hein. Pas à la main, parce qu'on y passerait beaucoup de temps. On les cartographie à l'aide de méthodes de traitement d'images qui sont finalement les mêmes méthodes, même genre de méthodes que ceux qu'utilisent les médecins pour analyser les radiographies, les biologistes pour analyser les microstructures. Et on arrive à faire des cartes automatiquement, donc ici une carte des zones de déflation, c'est-à-dire des creux entre les dunes. Est-ce qu'on peut cartographier les villes et les espaces urbains, bien entendu. Alors ici, une image Landsat Thematic Mapper, pardon, où on perçoit la ville de Tashkent, qui est la capitale de l'Ouzbékistan. Alors, la ville de Tashkent, on la perçoit, mais on la distingue assez mal à l'œil, à l'aide de techniques de traitement d'images numériques, puisqu'il s'agit d'images numériques, on va extraire les contours de cette ville. Alors, il s'agit d'une image qui a été prise dans les années 90, donc c'est les contours de la ville de Tashkent d'après uniquement l'image ici, Landsat Thematic Mapper, qui est collée à la carte topographique de Tashkent et ses environs. Et on peut voir ici que finalement, on ne s'éloigne pas tellement des contours cartographiés, mais surtout on voit qu'on va pouvoir, avec ces techniques de traitement d'image, suivre l'évolution des contours de la ville de Tashkent à l'aide des images satellites. Alors donc, on peut faire des cartes, on peut bien sûr faire des cartes de la végétation. C'est d'ailleurs, il faut dire, la première utilisation qui a été pensée lorsque les satellites ont été mis en orbite, c'était d'observer les ressources, en particulier les ressources agricoles. Donc ici, on fait une carte, et vous voyez qu'ici, la carte, c'est simplement la mise en image du parcellaire en attribuant des couleurs, cette fois-ci complètement artificielles, aux parcelles. Alors en jaune, parcelle de colza, en terre de sienne, les sols nus, hein, ici en bleu, les villes, la ville de Melun, la Seine, et en vert, la forêt. Vous voyez bien qu'il ne s'agit pas du tout de couleurs qui étaient celles de l'image et de la composition colorée, c'est des couleurs qui ont été attribuées. Comment ? Eh bien, automatiquement, par calcul, à partir des images de télédétection, et dans ce cas-là, des images, des 7 images Landsat Thematic Mapper. Vous voyez que maintenant, le géographe ne s'assoit plus avec son calque derrière ses photographies aériennes, il utilise les méthodes de traitement d'image pour pouvoir faire ses cartes, par exemple, ses cartes d'utilisation du sol. Alors, il y a eu bien sûr quelques petits inconvénients de ces images. Ces inconvénients, c'est les nuages en particulier. Les nuages ou, en général, les brumes. Ça peut être des brumes sèches quand on parle de l'espace intertropical sec. Ça peut être une nébulosité dans l'espace intertropical humide. Et donc, il fallait également des images pour pouvoir analyser les paysages de tout temps, quel que soit le temps. Si on veut suivre les changements, il n'est pas question d'attendre qu'il n'y ait plus de nuages pour pouvoir voir ces changements. Alors, qu'est-ce qu'on s'est mis à utiliser de façon, pas encore systématique, mais de façon en tout cas bien avancée maintenant? Ce sont des images qui ne sont plus issues cette fois-ci de l'énergie réfléchie par la Terre, mais de l'énergie réfléchie, énergie qui est envoyée non pas par le Soleil, source naturelle, mais par une source artificielle qu'on fabrique, hein, et on appelle cette technique le technique radar, c'est-à-dire qu'on envoie une onde à l'aide d'un émetteur, on envoie une onde sur la Terre, et on mesure la réflexion, la rétrodiffusion, on dit plus exactement, de la surface terrestre, et on enregistre cette rétrodiffusion. Alors, les images radar surprennent, elles sont beaucoup moins ressemblantes à nos bonnes vieilles photographies aériennes, on ne s'y retrouve pas tout à fait, mais il faut savoir que ces images radar sont extrêmement utiles, d'abord parce qu'elles sont tout temps, et aussi parce qu'elles sont sensibles à des éléments qui sont tout à fait particuliers, tels que l'humidité. Plus le sol est humide, plus il va renvoyer d'énergie vers le capteur. La rugosité, plus la surface est rugueuse et on va dire la géométrie est bousculée, par exemple, des éboulis vont envoyer beaucoup d'énergie en direction du capteur. Et par contre, une surface lisse et sèche va envoyer très peu d'énergie. Alors, qu'est-ce que ça permet de voir ? Ça permet de voir, par exemple, les phénomènes de déforestation. Phénomènes de déforestation, ici, il s'agit d'une déforestation en forêt amazonienne, c'est-à-dire que la forêt amazonienne, qui est de façon pratiquement permanente couverte de nuages, peut être surveillée à l'aide des images radar. Alors, ces images radar, on les obtient de façon répétée depuis 1991, lancement du satellite ERS1. Il y a d'autres satellites radar, mais je suis celui-là, qui a été lancé par l'Agence spatiale européenne. Et ces images ont la même répétitivité que SPOT, avec en plus le fait positif qu'elles existent tout le temps. Elles sont valables tout le temps, puisque le signal traverse les nuages. Donc, vous voyez ici qu'on peut facilement voir comment la forêt a été défrichée à cette date-là. Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir en tirer? On va pouvoir voir l'avancée de la déforestation, par exemple de la forêt amazonienne ou des forêts de zones intertropicales humides. Alors, j'ai dit que le satellite, par exemple ERS, qui est muni d'un radar en bande C, permettait également de voir la géométrie des objets. La géométrie, alors s'intéresse qui la géométrie? Bien sûr, du bâtiment, on va dire, mais également les accidents de la topographie. Et parmi les accidents de la topographie, il y en a qui sont extrêmement intéressants, puisqu'ils sont en général la localisation d'importants séismes, ce sont les failles, les grandes failles. Alors ici, vous voyez un bout de la faille, la grande faille d'Atacama, c'est une faille qui traverse du nord au sud, une partie du nord du Chili, et effectivement, c'est une faille active. Il y a eu des séismes importants il y a 3 ans le long de cette faille. Alors, comment se fait-il qu'on voit si bien la faille? Eh bien, simplement parce que le signal va heurter l'abrupte de la faille, et ce signal va être envoyé en direction du capteur. Et de ce fait, cette faille apparaît beaucoup mieux qu'avec n'importe quelle autre image optique. Donc, les images radar ont un grand intérêt en géologie en général et pour détecter les zones actives sismiquement. Alors, le grand progrès, je pense que les géologues ont dû vous en parler, mais le grand progrès des images radar, enfin, qu'on a réussi à faire avec les images radar, c'est de pouvoir détecter non seulement les failles, bon, ça on faisait déjà un petit peu, mais détecter les mouvements le long des failles. Alors ça, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'en utilisant deux images radar prises à des moments différents et sur à peu près la même orbite, on arrive à détecter des mouvements qui sont de l'ordre du centimètre. Et là, par exemple, sur cette image, vous percevez un bassin, qui est le bassin d'Erzincan, qui se trouve en Turquie. Il y a eu un très fort séisme dans les années 92, même en 92, séisme meurtrier à Erzincan. Et on veut savoir si cette faille bouge encore. Eh bien, en utilisant deux images radar à deux moments différents, on peut voir qu'effectivement, la faille bouge encore de quelques millimètres. On peut voir un mouvement de quelques millimètres. Or, ça suffit pour dire que cette faille est active. Donc, une des grandes applications performantes de radar, c'est effectivement la détection des mouvements de terrain, et en particulier donc des failles. Alors, à quoi servent encore, à part à faire des cartes, à part avoir les mouvements des failles ou à part la détection de failles elles-mêmes, par exemple, à quoi peuvent servir les images de détection? Eh bien, à voir les changements des paysages. Et c'est ça qui est important, parce qu'une fois qu'on a fait des cartes d'inventaire, on voudrait savoir ce qui change dans le temps. Maintenant, puisqu'il y a des satellites qui sont mis en orbite depuis les années 72, nous sommes en 2000, on a une histoire de 30 ans d'images. On a une archive de 30 ans d'images. On peut voir quels sont les changements. Quel type de changements? Eh bien, par exemple, des changements spectaculaires. Les changements spectaculaires sont les changements qui sont souvent liés à des catastrophes. On va voir, pas toujours, mais souvent. Alors, j'ai pris là un exemple dont vous devez avoir entendu parler, qui est la crue du bassin de l'Aude, crue qui a eu lieu en 1999. Donc ici, l'Aude, c'est avant la crue, la mer, et puis ici, bon, des bassins, des lacs que vous devez connaître. La ville de Narbonne se situe ici. Il y a eu de grandes crues. Que s'est-il passé après? Alors, après, eh bien, il y a eu des inondations, bien sûr. Et on veut savoir comment s'étendent ces inondations. Eh bien, ici, on peut constater qu'il y a effectivement un panache, mais ça, bon, ça ne nous intéresse pas trop. Ici, on voit que cette zone est complètement inondée. Hein, et ça, c'est une image qui a été prise juste après la crue, donc de novembre 1999. La ville de Narbonne est à peu près, n'a pas changé, mais par contre, tout le parcellaire agricole a été bouleversé par la crue, c'est-à-dire qu'il y a eu d'importants dépôts sur le parcellaire. Donc les dommages causés par la crue, ce n'est pas tant l'ennoiement, ce n'est pas tant l'eau qui finalement a ruisselé assez vite, mais c'est les dépôts importants causés par ces crues qui ont rendu impossible, par exemple, l'utilisation des parcelles pendant cette année-là. Autre type de catastrophe, toujours, enfin, plus tellement sous nos cieux, mais ici il s'agit du nord du Venezuela, toujours dû à une catastrophe naturelle qui était dans ce cas-là un cyclone. une image spot ici avant le cyclone. Alors, bon, on voit bien comment est dessinée la ville en question. Et après le cyclone, eh bien, la grande catastrophe, ça a été les glissements de terrain importants. Vous avez dû voir les reportages sur cette zone-là. Donc, une image avant, une image après, ici il s'agit d'images spot, permettent d'évaluer les dégâts. Et ici il s'agit de glissements de terrain importants après les catastrophes naturelles. Alors cette fois-ci, il s'agit aussi d'évaluer les dégâts après une catastrophe qui est un cyclone sur Madagascar en 99 également. Ce cyclone a causé des crues importantes et après ces crues, des dépôts de sédiments importants ont été observés sur le terrain et on les voit très bien sur les images. Alors, ici, il ne s'agit pas d'une image spot, il s'agit d'une image radar. Parce que finalement, les cyclones produisent d'assez mauvaises conditions météorologiques pour avoir des images spot très claires. D'accord ? Donc ici, le cyclone a été... les images ont été observées juste après le cyclone et grâce aux images radar, on a pu voir l'étendue des dépôts et donc des dégâts sur cette côte malgache. On le voit dans des aplats, par opposition aux zones rugueuses que vous voyez, qui sont des zones qui ne sont pas touchées. Donc, quantifier les dégâts, c'est un des éléments importants et un des résultats importants des prises de vue régulières par les images des capteurs passifs, c'est-à-dire SPOT ou Landsat, ou des capteurs actifs, comme les capteurs radar. Mais, en dehors des catastrophes, bien sûr, il y a des changements, changements du paysage, changements intersaisonniers. Alors, pour ceux qui connaissent les régions intertropicales sèches menacées de désertification, on peut observer la façon dont la végétation reprend après la saison des pluies. Ici, c'est une image qui a été prise au Sahel, au Burkina Faso, pendant la saison sèche. Alors, je vous ai dit qu'on utilisait une technique consistant à mettre trois images spot, ici il s'agit de spot, et en une seule pour la transformer en image colorée. Ici, donc, en rouge, on voit rouge et noir une mare remplie de végétation, tout le reste étant très clair. Et donc, la végétation est quasiment absente de cette zone-là. Après la saison des pluies, en fin de saison des pluies, vous voyez que le rouge envahit l'image, c'est-à-dire que la végétation a repris. Alors ça, c'est naturel, et c'est même, dans ce cas-là, ce changement est positif. Maintenant, comment va-t-on mesurer les effets de la variation du climat, de la variabilité climatique, justement en regardant à quel point la végétation reprend ou ne reprend pas dans les zones arides comme celle du Sahel. Ici, nous sommes au nord Sahel. Les inondations et les crues sont parfois des événements positifs quand il s'agit de zones qui, justement, ne vivent que de la pluie, comme ici. Il s'agit ici du delta intérieur du Niger au nord du Mali. C'est une zone où circule le Niger et tous ses affluents. Et en saison des pluies, les cultures sont irriguées. On peut faire pousser du riz, et ceci pendant, 4 mois. Et justement, la reprise de la pluie est quelque chose de tout à fait positif. Alors, les crues sont productrices et sont des événements tout à fait positifs pour les populations. Alors ici, on a utilisé la même technique de coloration en utilisant deux images radar, une en fin de saison sèche et une en fin de saison des pluies. Et on voit en violet, eh bien, les effets de la pluie, c'est-à-dire l'humidification des sols les plus bas. Les sols sont gorgés d'eau à la fin de la saison des pluies. Alors, ça, on le sait, mais on peut le mesurer. Et qu'est-ce qui va se passer si la sécheresse s'arrête? Eh bien, c'est que ces zones, là, cette image a été prise en 92, fin de saison sèche, fin de saison des pluies en 92, si la sécheresse s'arrête, donc la pluviométrie reprend, eh bien, ces zones inondées vont être de plus en plus larges et elles vont rester telles quelles le plus longtemps possible. Alors qu'avec la sécheresse, la pluie ne durant plus que 2 mois au lieu de 4, eh bien, ces zones étaient nettement plus restreintes. Donc on peut quantifier les effets de la reprise de la pluie au Sahel, par exemple. Alors, un autre effet qu'on peut également mesurer, c'est la déforestation. Alors cette fois-ci, il s'agit de l'homme. Madagascar, 2 images, une en vert, on va dire, et une en violet, une à une date et une à une autre date, 2 images radar prises à un an d'intervalle, eh bien, il est en violet, on peut voir les zones déforestées, c'est-à-dire que le signal radar, comme vous l'avez vu tout à l'heure pour la forêt amazonienne, est plus faible et on voit les changements entre 2 dates très rapprochées. Il y a une importante déforestation à Madagascar durant la période 99 et ici on peut la quantifier grâce à 2 images radar prises à 2 moments différents. Alors, déforestation naturelle ou artificielle. Ici, il s'agit d'une zone qui se situe au Sénégal, pas en Casamance, mais au nord de la Casamance, qui est une zone de mangrove. Mangrove, donc forêt de palétuvier, forêt naturelle, les arbres poussent les pieds dans l'eau. A priori, ces forêts sont relativement, n'ont pas besoin d'être entretenues. Et que se passe-t-il avec la sécheresse? Eh bien, avec la sécheresse, l'eau devient de plus en plus salée, puisqu'il y a de moins en moins d'apports d'eau de pluie et de plus en plus d'apports d'eau salée, c'est-à-dire celle de l'océan. Ici, nous sommes au bord de l'océan Atlantique. Et certains palétuviers ne supportent pas ce taux de salinisation, et donc ils meurent et se transforment petit à petit en marécages, qu'on appelle des tannes. Ici, vous voyez qu'entre 2 années, 72 et 76 ans, 4 ans, eh bien, on voit en violet le recul de la mangrove, qui ici est en vert, et l'avancée des tannes, c'est-à-dire de la mort des mangroves, en violet. Donc, il s'agit cette fois-ci d'une déforestation due, on pense, essentiellement à la sécheresse. Alors, ça, ce dont j'ai parlé, ce sont des phénomènes qui sont bien sûr d'origine naturelle, parfois artificielle, la déforestation. Cette fois-ci, je vais essayer de vous montrer un exemple qui concerne entièrement l'activité humaine consistant à construire des villes le long du littoral en particulier. Alors, on va essayer de voir de nouveau l'ensemble de l'image. Il s'agit ici d'un littoral toujours sénégalais, au nord de la région que je viens de vous montrer, du littoral qui se situe au sud de Dakar. Qu'est-ce qui se passe au sud de Dakar? Eh bien, de plus en plus, les gens s'installent, construisent des hôtels, des maisons, etc. Bien sûr, accueillir les touristes, mais pas seulement, parce qu'il y a une activité économique qui se développe dans cette région. Et on veut voir où, comment grandissent les villes, et seulement avec des images, ici, spot, vous allez voir, le long de cette partie du littoral, dont l'ensemble, ici, vous avez à peu près 50 km de littoral, comment les villes grandissent et comment on bâtit des petites villes, des îlots le long de ce littoral. Alors, on a pris deux images spot, l'une en 88 et l'autre en 99, et on a cartographié uniquement les villes. Alors ici, vous voyez qu'il y a une ville qui est relativement importante qui s'appelle Bourg, mais d'autres villes qui sont beaucoup plus petites, une ville qui s'appelle Sally et qui est bien connue de tous les dépliants touristiques puisque c'est la plus grande station balnéaire à l'ouest de l'Afrique de l'Ouest. Et puis d'autres villes moins connues, mais qui se développent également par l'activité touristique ou d'autres activités de loisirs. Par exemple, activité de résidence, de loisirs pour les Dakarois qui construisent des résidences secondaires. Image des villes en rouge, ici Mbourg, Dakar n'est pas sur l'image, Mbourg, d'autres petites villes en rouge et quelques petites villes à l'intérieur des terres. Alors, 10 ans après, ces villes ont grandi. Alors, c'est bien sûr, il y a plus de points rouges sur la deuxième image. Et on a pu, grâce uniquement à des techniques d'analyse d'image, faire ressortir cette croissance urbaine entre les deux dates. Alors là, bon, je vais refaire un zoom comme ça, à l'envers. Ici, Mbourg, qui était déjà une grosse ville. À quoi correspondent les couleurs ? Le rouge correspond aux zones où le bâti est le plus dense, et le vert et le bleu aux zones où le bâti est le moins dense. Alors vous voyez que Mbourg était bien sûr la plus grosse ville de cette zone en 88. Comment a-t-elle grandi ? Elle a grandi. D'autres villes, de petites villes se sont installées à son pourtour, mais plutôt au nord. Hein ? On peut dire, quand on fait l'analyse de ces deux images, que s'il y a une croissance du bâti, c'est plutôt entre Mbourg et Dakar que pour l'instant, cette croissance se développe. Donc, un résultat qui n'est pas seulement une carte, mais une mesure quantitative, exactement comme on procède exactement comme le biologiste voit progresser une cellule ou un corps quelconque vu au microscope. Donc ici, on peut quantifier, grâce uniquement aux images satellites, et aucune autre information n'est entrée dans cette procédure, qu'il y a une croissance importante le long du littoral sénégalais au sud de Dakar, et que cette croissance concerne pour l'instant plutôt la partie qui est entre Dakar et cette ville de Mbourg. Alors, on est quand même un petit peu contraint par la faible résolution, c'est-à-dire le manque de précision de ces images. Je vais prendre l'exemple de Mbourg, toujours. On a voulu voir à quel point Mbourg s'était agrandi. Et pour ça, on a dû revenir aux photographies aériennes, aux bonnes vieilles photographies aériennes. Il se trouve qu'on avait des photographies aériennes de plusieurs années, 78, 89, 97, et que c'est seulement grâce à ces photographies aériennes qu'on a pu voir ce qui se passait à l'intérieur de la ville. Donc pour l'instant, les images satellites permettent effectivement de définir la croissance urbaine, c'est-à-dire le progrès du contour des villes, progrès vers l'extérieur, mais assez peu de voir, pour des petites villes en particulier, comment elles progressent à l'intérieur. Bon, ici, la ville de Mbourg étant assez petite, vous voyez qu'ici l'échelle est d'un kilomètre, donc on est dans le cas d'une ville qui fait à peu près 3 km dans sa dimension la plus grande, pas plus, eh bien on a dû avoir recours aux photographies aériennes. Alors on dit tous, vous nous avez parlé d'images satellites, mais vous revenez aux photographies aériennes. Les photographies aériennes ont quand même un défaut. Vous voyez qu'ici, l'image n'est pas homogène, donc on n'a pas d'informations. Mais pourquoi je suis revenue à ces photographies aériennes ? Puisque pour l'instant, le seul reproche qu'on peut faire aux images satellites, c'est qu'elles n'ont pas une résolution équivalente aux photographies aériennes. Donc, Que va-t-on faire? Eh bien, on va lancer, et on a déjà lancé, la communauté internationale a déjà lancé des satellites qui ont une résolution tout à fait proche de celle des photographies aériennes. Alors, il y a un premier satellite américain qui s'appelle Iconos et qui a une résolution tout à fait comparable à celle des photographies aériennes. C'est-à-dire que le point fait non plus 20 mètres, mais 2 mètres. Alors, on va voir cela par comparaison avec les images SPOT. Vous vous souvenez de cette image du nord du Venezuela, image SPOT. Voilà une petite zone sur laquelle on s'est attardé. Alors ici, c'est l'image SPOT de janvier 1999. Donc le point le plus petit mesuré fait 10 mètres, c'est du SPOT panchromatique. Après le cyclone, voilà ce qu'on pouvait mesurer. Et que voit le satellite Iconos sur cette même partie? Eh bien, vous voyez qu'avec Iconos, on voit pratiquement les maisons. C'est-à-dire qu'on voit encore plus qu'avec une photographie aérienne. C'est comme si on prenait une photo à faible altitude. Or, il s'agit d'un satellite. Alors, maintenant, les satellites vont avoir les avantages dont on a parlé tout à l'heure. Grande répétitivité, possibilité de voir à travers les nuages, donc possibilité de comparer les images entre elles d'une époque à l'autre, mais également de plus en plus une très haute résolution. Alors, la communauté internationale a déjà commencé à mettre en place des programmes du type satellite à très haute résolution, comme Iconos. Bien sûr, Iconos a un petit défaut, c'est qu'une image ne couvre que très peu de surface, comme le faisaient les photographies aériennes. Quel est l'espoir qu'on a d'avoir des images de très haute résolution? Eh bien, le programme SPOT va lancer un satellite qui s'appelle SPOT 5, dont le point va faire, cette fois-ci, 5 mètres au lieu de 10 mètres, et 2,5 mètres en point chromatique au lieu de... 2,5 mètres en pan chromatique et 5 mètres au lieu de 20 mètres en multispectral. Donc on va voir des images qui seront bien plus précises, peut-être pas autant qu'Iconos, mais après tout, a-t-on besoin d'une résolution aussi grande, de voir chaque maison? Mais par contre, la résolution va être tout à fait satisfaisante pour voir la croissance des villes, les changements du paysage, à travers ces images qui, cette fois-ci, vont aussi avoir une taille d'environ 100 km de côté. Donc, dans normalement un an ou deux, on va avoir à la fois les avantages de la photographie aérienne, qui était sa très haute résolution, et les avantages des capteurs embarqués sur satellite, qui sont leur très grande répétitivité et leur caractère tout temps pour ce qui concerne les images radar. Donc, voilà un petit peu ce que j'essayais de vous montrer, que ces images servent aux géographes pour voir non seulement les objets à un moment donné et les paysages à un moment donné, mais surtout leur transformation, qu'en utilisant l'archive d'images depuis le début des photographies aériennes jusqu'à nos jours, on a une histoire des paysages de 50 ans qu'on peut exploiter non seulement en faisant des dessins, ce qu'on fait de moins en moins, mais surtout en traitant les images et en faisant des cartes et en extrayant les informations dont on a besoin uniquement, qu'il s'agisse de dynamique des paysages, déforestation, désertification ou de croissance urbaine, et que, avec les nouvelles images et celles qui vont à venir, les générations futures vont avoir encore plus de chances que nous. Donc, les géographes de la future génération seront vraisemblablement des analyseurs d'images tout autant que les autres scientifiques qui travaillent à l'aide des images de détection.
Je voudrais vous poser deux questions. La première, vous avez dit que les méthodes avec radar déterminaient la rugosité et l'humidité. Est-ce qu'on peut séparer ce qui revient à l'un et ce qui revient à l'autre? C'est ma première question. Et ma deuxième, est-ce qu'il y a des applications militaires, notamment, je pense, en Irak, il y en a eu. Et est-ce qu'il y a une législation pour ce genre d'examen?
Bon, la première, je réponds à la première question. Oui, on peut effectivement différencier ce qui est dû à la rugosité et à l'humidité, tout simplement, d'abord en faisant des observations de terrain, hein, et ensuite, la rugosité se quantifie réellement par la taille, hein, simplement, des objets qui créent cette rugosité. Je pense par exemple à des cailloux, des éboulis, etc. Le radar, par exemple, ERS, est sensible à des objets, enfin, à une forte réponse quand on mesure des objets qui ont une arête de quelques centimètres. Donc, on fait très clairement la différence entre un sol humide et lisse et un sol qui est couvert d'éboulis, puisqu'on a une réponse qui n'est pas la même d'une part et qui n'a pas le même aspect sur l'image. Donc ça, je pense que le problème ne vient pas de là, il vient plutôt de la végétation elle-même et de sa rugosité. Là, par exemple, il y a une petite difficulté en ce qui concerne la végétation qui, elle, a une certaine rugosité, par exemple la forêt ou même les cultures. Alors, ce problème va être, je crois, dépassé avec les futurs satellites radars dont je n'ai pas trop parlé, qui vont être lancés par l'Agence spatiale européenne et ils vont être mis sur le satellite Envisat. Envisat comme satellite pour l'environnement. Vous voyez qu'on n'est plus dans les satellites de cartographie, mais dans les satellites, les satellites portent des noms qui sont relatifs aux questions d'environnement. Et ces satellites, au lieu d'envoyer le rayon dans une seule direction, vont envoyer leur rayon dans plusieurs directions, ce qui fait qu'on va voir les objets sous plusieurs angles. Donc on verra bien s'il s'agit, par exemple, d'éboulis, fixes a priori, ou bien de surfaces lisses et humides qui, a priori, auront une réponse qui va changer au cours du temps. Donc, de ce point de vue, je crois que la réponse et la détermination du rôle de la végétation par rapport, par exemple, à la rugosité minérale ou à l'humidité va trouver des solutions dans ces multipolarisations des futurs appareils embarqués à bord des satellites. Alors, les autres questions concernent l'utilisation militaire des images satellites. Là, je dois dire que bon, je vous ai parlé des utilisations strictement civiles. Tous les satellites dont j'ai parlé sont des satellites d'observation de la Terre qui ont été lancés justement pour étudier l'environnement, cartographier les paysages. Et il est bien évident que les militaires ont envoient des satellites à très haute résolution, quel que soit leur pays d'ailleurs, et que je dirais que de ce point de vue-là, on n'a pas tellement de connaissances des résultats. Ce qu'on peut dire, c'est que, enfin, des résultats ou du moins des performances, on s'en doute un petit peu. Là, il s'agit de. Les satellites dont j'ai parlé sont d'une part des satellites d'utilisation civile, mais sont aussi des produits commerciaux. C'est-à-dire que, a priori, n'importe qui peut acheter des images dont j'ai parlé. On peut les acheter si on paye leur prix. Ce sont des produits commerciaux. Allez, je ne pense pas qu'il s'agisse de la même chose dans le cas des militaires. Il ne s'agit pas de produits commerciaux. Donc, il y a quand même deux mondes en détection. Il y a le monde de l'observation militaire et puis le monde de l'observation civile, qu'elle soit scientifique, qu'elle soit technologique ou bien opérationnelle, comme par exemple, je pense à l'Institut de géographie nationale qui a une mission, c'est de produire des cartes topographiques et donc qui utilise des images satellites régulièrement. Donc ces deux mondes se rencontrent rarement, ils se rencontrent même assez rarement dans les rencontres scientifique dont le thème est le traitement d'images. Hein. Voilà.
Du point de vue international, est-ce qu'il y a un traité qui permet à certaines puissances d'explorer les autres pays, les terres ?
Du point de vue international, oui, bah, a priori, il y a quand même quand on demande des images, c'est un organisme les demande. C'est dans un but précis. Actuellement, je ne crois pas, en tout cas, que pour ce qui concerne les images POT, hein, je pense aux images POT, ou Landsat, ou même ERS, il y ait des traités qui interdisent l'accès à ces images. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les images sont acquises par des stations de réception qui sont dans les pays. Il est possible pour certains pays qui ont ces stations de réception de faire une certaine rétention des images comme ça à un moment donné, à un moment stratégique, de ne pas les céder aussi vite qu'on le souhaiterait. Mais finalement, les scientifiques n'ont pas forcément besoin d'avoir les images tout de suite, sauf en ce qui concerne effectivement le suivi des catastrophes. Là, il faut dire effectivement qu'il est important d'avoir des images juste après les catastrophes, juste après une inondation, juste après un séisme. Et de ce point de vue-là, on n'a pas observé de rétention, au contraire, hein, des pays qui détenaient les images, c'est-à-dire les pays où se situaient les stations de réception.
La question concerne l'espionnage, surtout.
Non,
plus précis.
Oui. Je dois dire que là, je. Vous savez, pour étudier les paysages, les phénomènes tels que les changements des paysages, ou même après les catastrophes, on n'est pas vraiment dans les conditions auxquelles vous faisiez allusion. À la guerre d'Irak, il est certain que les conséquences, par exemple, des guerres hein, et sur les destructions, par exemple, ne sont pas les premières images auxquelles on a accès. Là, il y a une petite difficulté, il ne s'agit pas d'espionnage. Alors, par contre, je vous donnerai un exemple précis, il ne s'agit pas d'espionnage, mais la seule image Iconos, une des seules images Iconos qui circule sur le site de la NASA, et ce sont les images Iconos de Grozny. Ce n'est pas tout à fait un hasard. Alors, je ne sais pas s'il s'agit d'espionnage, je ne crois pas. Non, là, au contraire, il s'agit plus exactement d'une espèce de propagande. Donc là, si on veut regarder tranquillement chez soi une image Iconos, on peut le faire, mais ce sera l'image de Grozny. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que ceux qui ont créé l'image la diffusent comme ils le veulent. Ça, c'est vrai. Mais on ne peut pas parler là d'espionnage. On peut plutôt parler d'une certaine tendance à diffuser certaines images plutôt que d'autres de la part de ceux qui les ont créées. Maintenant, espionnage, je pense qu'il y a des satellites beaucoup plus performants, on peut dire de ce point de vue-là, mais qui ont des cibles beaucoup plus précises et qui ont été utilisés de ce point de vue comme satellites espions, enfin pour savoir, pour avoir des idées sur ce que faisaient les autres pays. Alors je rappelle quand même que le satellite Landsat MSS, enfin un des objectifs du lancement d'MSS, c'était de surveiller les ressources agricoles de tous les pays et en particulier les ressources agricoles du point de vue des États-Unis, des pays de l'Est. Bon, de ce point de vue-là, il a manqué quand même pas mal d'éléments, et en particulier, je n'ai pas trop insisté là-dessus, mais il faut malgré tout avoir des connaissances du terrain, pour pouvoir interpréter correctement certaines données satellites. C'est-à-dire que tout n'est pas aussi automatique que ça. Hein. Quand il s'agit, par exemple, d'évaluer la production en blé de l'Ukraine à telle date, il y a des petits éléments qui peuvent manquer si on veut le faire sans se tromper. De ce point de vue-là, je pense que les objectifs d'espionnage alors économique qui peut-être étaient derrière la tête de certains industriels, je ne sais pas, ça n'a jamais été totalement couronné de succès. Voilà.
Il y a des satellites qui s'appellent satellites espions.
Oui, mais nous autres, les civils, nous n'avons pas accès à ces images. Donc, encore une fois, c'est un monde qui est tout à fait différent et nous ne travaillons pas avec les images de ces satellites.
Je vais essayer de sortir un peu des polars. Je vais vous poser une question. Est-ce que les procédés d'observation que vous venez d'exposer peuvent servir pour détecter justement ce qui nous intéresserait dans le sous-sol ? Le pétrole, par exemple, ou d'autres choses ?
Alors, là, je crois que, bon, pour ce qui est du pétrole, indirectement, parfois, c'est la géologie qui est importante, plus que le pétrole lui-même, puis le sous-sol. Alors là, je dirais que, oui, de façon indirecte, et c'est ce que font des organismes comme le Bureau des recherches minières en France. Simplement, ça ne suffit pas. Hein. Ça aide à détecter, bien entendu, des zones faillées, fracturées. Voilà. Hein. Mais c'est pas là l'objectif, effectivement, du géographe que je suis.
Voilà, j'aurais aimé savoir comment on faisait des cartographies avant l'existence des avions et des satellites.
Alors, avant l'existence des avions et des satellites, eh bien, on faisait des cartographies à partir du terrain lui-même et en prenant des mesures sur le terrain de proche en proche. Donc, les premières cartes étaient produites de cette façon-là. Bien entendu, les photographies aériennes ont permis... Et quand j'ai parlé des années 50, il y en avait déjà avant, hein. Les photographies aériennes ont permis de remettre à jour ces cartographies, hein, ces cartes topographiques, pour le coup. Voilà, donc je pense quand même que l'arrivée des photographies aériennes ont permis cette fois-ci de faire une cartographie, une carte topographique scientifiquement correcte, enfin rigoureuse.
Vous avez évoqué les progrès de résolution des images.
Oui, oui.
Est-ce que vous considérez que le degré actuel de résolution est suffisant ?
Pour certaines applications, comme on dit, il n'est pas suffisant, mais il va bientôt l'être. Et ces applications, quelles sont-elles ? Eh bien, j'en vois deux essentiellement. Ce sont les cartes des paysages intra-urbains, c'est-à-dire le tissu urbain lui-même. D'autres cas où peut-être que le degré est insuffisant, c'est effectivement la détection des accidents du relief, tels que les failles actives qui sont souvent des failles relativement petites, on peut dire, en dimension. Ce type d'objet, effectivement, va pouvoir être observé avec les satellites à très haute résolution. Les glissements de terrain aussi, qui n'ont pas forcément la grande ampleur des glissements de terrain au Venezuela que je vous ai montré, eh bien, c'est pour observer de façon régulière ces objets, tissus intra-urbains, accidents du relief, glissements de terrain, effectivement, les images à très haute résolution vont apporter des informations pour évaluer les dégâts dus à la destruction des villes, que ce soit une destruction due à des attaques militaires ou bien des destructions dues au séisme. On est aussi arrivé aux limites de la résolution des images POT, des images radar, c'est-à-dire qu'on ne peut pas évaluer correctement les destructions des immeubles, des constructions, après un séisme, par exemple sur une image POT. On a du mal à le quantifier. Donc voilà, dans quel domaine on va avoir plus d'informations, les villes, et puis les accidents du relief, donc des structures géologiques, en gros, qui vont pouvoir être perçues de façon plus fine avec un SPOT 5, sans faire référence strictement à Iconos.
Catherine Mering, je vous remercie.